quoi.
J'ai complètement ignoré, j'étais dans mon truc et j'aurais jamais dû, mais je pense que ça va aussi avec le côté freelance et la précarité du fait d'être freelance, le fait de se dire ouais aujourd'hui ça va bien, mais dans 6 mois, mais dans 1 an, mais dans 2 ans. Et on en revient à la question de l'e-sport. Hein. À un moment, on se demandait vraiment si l'e-sport, c'était quelque chose qui allait rester, ou si c'était qu'une bulle qui allait exploser, ou si c'était qu'une mode qui allait passer. Je pense qu'on est au-delà de ces questions aujourd'hui.
Bonjour à tous, et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Laure Vallée, journaliste dans le domaine de l'e-sport. Une présentation qui surprend peut-être, quand on pense à ce domaine encore très masculin et étiqueté comme tel, et c'est aussi pour cela que j'étais vraiment contente de pouvoir échanger avec Laure. Comment a-t-elle réussi à se faire une place dans un milieu extrêmement fermé, très genré et aussi parfois avec beaucoup de préjugés? Comment s'affirmer et se faire reconnaître pour ses compétences quand on n'est pas prise au sérieux? Je pense que l'expérience de Laure peut être utile pour beaucoup de personnes qui cherchent à se faire une place dans un milieu assez fermé ou un milieu où ils ne se sentent pas légitimes. Son expérience d'ailleurs, mais surtout ses conseils, car Laure a aujourd'hui réussi à devenir une référence dans le milieu journalistique et présente la plus grande compétition de gaming au monde. Pourtant, son parcours a été semé d'obstacles, et on échange aussi sur ce qu'on ne voit pas toujours, gérer le stress de la vie de freelance, apprendre à prendre du temps pour soi et à ne pas se définir par sa productivité, et comment prendre soin de sa santé mentale quand on consacre beaucoup d'énergie dans ses projets professionnels. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et en écrivant quelques lignes sur pourquoi vous l'avez apprécié ou pourquoi vous appréciez ce podcast. Je remercie aujourd'hui Tamast34 qui a laissé le commentaire suivant, très intéressant et inspirant. Les conversations sont pertinentes et enrichissantes, c'est un plaisir chaque semaine d'avoir un nouvel épisode. J'ai découvert le podcast il y a quelques mois et j'ai écouté tous les épisodes, il n'y en a aucun à supprimer, chaque histoire apporte beaucoup à ma vision de la vie, merci. Merci à toi cher auditeur ou chère auditrice pour ce commentaire hyper touchant, savoir que les épisodes d'InPower peuvent vous aider à nourrir des réflexions et que vous appréciez avoir des épisodes chaque semaine, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Laure. Bonjour Laure.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur InPower. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Alors, on va faire ça le moins académique possible. Donc, je m'appelle Laure, j'ai bientôt la trentaine, on va en rester là. Et je suis journaliste, animatrice e-sport, donc ce qui concerne les compétitions de jeux vidéo, sur Internet, à la télé aussi depuis quelques années. Donc voilà, c'est sortie d'école de journalisme, je suis partie dans cette voie.
Et est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a fait vibrer, à la fois le journalisme et à la fois le jeu vidéo? Parce que... ouais, c'est pas forcément déjà des passions qu'on a tendance à associer. C'est pas forcément des métiers dans lesquels on s'imagine faire carrière. Est-ce que toi, t'as toujours su que c'était là où tu voulais aller?
Absolument pas. J'ai toujours été intéressée par tout l'aspect culturel, vraiment. Donc je pense que le jeu vidéo en fait partie. J'avais beaucoup de hobbies quand j'étais gamine et mes parents m'ont jamais mis de barrière en fait pour jouer au jeu vidéo. Je sais que ça peut être le cas pour beaucoup de personnes, mais ils étaient très supportifs de ça, au même niveau que la danse que j'ai fait. J'ai fait du cirque, j'ai fait pas mal d'activités aussi extrascolaires liées à la culture à chaque fois. Donc voilà, j'ai toujours eu ce côté jeu vidéo. J'avais jamais pensé qu'on pourrait en faire une carrière, parce que quand t'es petit dans les années 90, tu te dis ouais, les jeux vidéo, je veux tester des jeux vidéo ou je veux être développeur de jeux vidéo, et c'est absolument pas des choses qui m'intéressaient. Le journalisme, en revanche, c'est quelque chose qui m'est venu assez tôt, je pense au collège, quand j'ai compris que je voudrais faire des études littéraires. De toute façon, je m'intéressais à l'histoire de l'art, le journalisme, ce genre de choses, donc j'ai dû faire un choix à l'issue de mon bac, qui était en premier de faire de l'histoire de l'art. Je suis revenue sur mes pas par la suite et j'ai fait du journalisme. Et on va dire que j'ai fait mes études à une époque où le journalisme de jeux vidéo se développait de plus en plus, notamment avec l'e-sport que j'ai beaucoup aimé, et c'est comme ça que c'est arrivé.
Ok, c'était quelles années à peu près, toi, t'as passé ton bac,
mon bac en 2011.
Ok.
Ouais, ça fait un peu de temps déjà.
Et je savais pas du tout que c'était une époque où le journalisme de jeux vidéo se développait.
Il y avait pas mal de presse déjà vidéoludique qu'on pouvait trouver en kiosque, mais c'était des choses vraiment niches, et honnêtement, j'ai découvert un peu l'écosystème, je suis tombée dessus par hasard, et c'est en baladant sur Internet que j'ai vu qu'il y avait des sites dédiés, des forums, que ce soit des guides pour faire les jeux, ou des personnes qui faisaient des reviews de jeux, comme on peut faire une critique de film.
Ouais.
Donc ça a été ma première approche vraiment au monde un petit peu journalistique du jeu vidéo. Puis l'e-sport est venu par la suite, un petit peu comme le sport, c'est comme ça qu'on l'a considéré en tout cas à la base. Et c'est là qu'on a vu des métiers commencer à se créer autour de cette pratique professionnelle du jeu vidéo. Et Voyant ça, j'avais forcément envie de faire partie de l'aventure.
Et il n'y a personne qui t'a fait douter à ce moment-là, parce que ce n'est pas une carrière classique, entre guillemets. Tu connaissais en avis pas beaucoup de monde qui le faisait. C'est assez facile de, qu'on nous dise, en fait, qu'est-ce que tu fous, Laure ? Non, ce n'est pas une carrière, ça.
Non. Et ça a été surtout la remarque de mes parents, même si supportive, pendant que je faisais mes études, ils voyaient que je passais beaucoup de temps à ça, de façon bénévole surtout, parce que l'e-sport, quand j'ai commencé en 2013-2014, ça payait pas énormément. Hein. Si on était payé avec un casque, on se sentait vraiment heureux, ou des périphériques ou autre. Donc ouais, ça a été un gros challenge. La chance que j'ai, c'est que j'ai été prise au sérieux par pas mal d'entités qui avaient de la valeur assez rapidement, à savoir des chaînes de télé qui s'intéressaient à l'e-sport au moment où l'e-sport commençait vraiment à exploser. Donc étant un des rares profils à ce moment-là, évidemment, j'ai été sollicitée. Et auprès des parents, ça apporte de la valeur quand tu rentres à la maison soir et que tu dis « Ah, il y a Canal+, oui, il y a beIN Sports qui voudrait travailler avec moi. » Mais ça a été 3 ou 4 années où je faisais ça de façon un petit peu discrète. Même mes amis me disaient que je perdais mon temps, que c'était plus de la passion alors qu'eux étaient dans leurs études concentrées. Mais bon, j'ai pas lâché, j'y ai cru. J'ai failli lâcher à un moment parce que à force de voir que ça décolle pas, on se demande justement si tous ces gens-là ont raison ou non. Et au final, je regrette pas de pas avoir abandonné. Hein. Je ne voudrais pas avoir une autre carrière aujourd'hui.
Vraiment. Ok. Tu peux nous parler peut-être de ces moments difficiles où tu penses peut-être à abandonner, parce que je trouve ça important d'en parler. On a parfois l'impression que les gens qui ont réussi, entre guillemets, ça a toujours été facile pour eux. Et quand on creuse, c'est rarement le cas. Ça ressemblait à quoi pour toi, cette période ?
C'était beaucoup de doutes, parce que l'e-sport était de niche vraiment un peu, donc tous les médias, toutes les structures sur Internet, beaucoup à l'époque sur Twitch, sur Dailymotion, qui produisaient du contenu sur ces plateformes-là, n'étaient pas non plus, enfin j'ai pas envie de dire très sérieuses, mais c'était un petit peu le Far West, hein, on va pas se le cacher, l'e-sport il y a quelques années, donc... Que ce soit des barrières du fait que ce soit un écosystème qui n'est pas tout à fait construit, comment est-ce qu'on rentre là-dedans ? Ça a été quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, qui est passé par beaucoup de bénévolat. Puis surtout, comment ne pas se faire manipuler, comment ne pas tomber sur les mauvaises personnes, comment ne pas céder à la pression des personnes qui ont tout aussi faim de toi, mais qui ne seront pas forcément bien intentionnées et qui vont te mettre des bâtons dans les roues en te disant que de toute façon, tu ne feras jamais rien. Et ce genre de moment, en fait, tu te sens seule parce que tu n'as pas forcément... l'entourage qui te suit à côté, hein. Mes amis, je t'en parlais tout à l'heure, mais mes amis du lycée de l'époque me prenaient pas forcément très au sérieux quand je faisais ça, donc ouais, ça a été assez dur, mais j'étais assez passionnée par l'e-sport pour me dire que, si j'y croyais, j'avais raison de continuer et de persévérer de ce côté-là, mais ouais, ça a été beaucoup de solitude, et après on peut parler du moment où, tu dis « I made it », mais c'est un travail constant, je trouve, et même aujourd'hui dans ma carrière, il y a beaucoup de difficultés qui viennent par la suite, mais je considère que le fait de percer, c'est pas forcément ce qui a été le plus difficile, c'est surtout ce qui est venu après et les responsabilités qui ont été compliquées.
D'accord, donc en fait pour toi tu dirais la période qui a été difficile, c'est pas tant le fait de s'accrocher et de persévérer, mais plus une fois que t'es arrivé à ton objectif, gérer tout ce qui va avec.
Ouais, parce que moi j'y croyais en fait, donc quand c'était juste à titre individuel, me dire non, je vais y arriver, je vais me trouver du boulot là-dedans, c'était un pari avec moi-même, mais quand des gens commencent à te laisser une chance, commencent à te prendre un peu au sérieux, t'as ce recul. Ah ok, donc en fait, c'est pas juste un pari avec moi-même que j'ai pris, c'est vraiment quelque chose que je peux faire, et on peut en parler, l'e-sport, j'imagine que t'en as aussi entendu parler pour les clichés qu'il peut y avoir autour de ça, clichés qui sont parfois un peu vrais, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de femmes dans le milieu, donc pour se faire une voix, c'est assez compliqué. Le fait qu'encore une fois, c'est un écosystème qui est en construction, donc on ne peut pas toujours tomber sur les bonnes personnes, mais aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie des personnes justement qui peuvent un petit peu rythmer et mettre un coup de bâton dans l'écosystème quand ça va pas. Mais c'est une place qu'on doit défendre tous les jours, j'imagine, à notre niveau.
Ouais. Ça t'a pas repoussé au début de te dire je vais être la seule meuf dans un milieu d'hommes, non merci.
Il y a toujours cette appréhension de Twitch avec le chat, avec les réactions d'Internet, etc. Moi, c'est quelque chose qui me terrorise, vraiment. Le fait que quelqu'un que je ne connais pas sur Internet puisse me juger pour une raison qui lui est propre et le dire à voix haute et justement susciter des réactions autour de ça, c'est quelque chose qui me faisait très très peur, qui m'a beaucoup bloquée, honnêtement. Cette appréhension, tu sais, de « il faut pas que je regarde, il faut pas que je regarde », puis tu sais, c'est « il faut pas que je touche le bouton rouge », mais du coup, je vais toucher le bouton rouge parce que forcément, quand tu sais qu'il faut pas que tu regardes des choses toxiques, tu vas quand même les regarder au final parce que tu veux savoir ce que les gens vont dire autour de toi. Et j'ai réussi à prendre de la distance aujourd'hui par rapport à ça, mais pour toutes les jeunes filles et même pour tous les créateurs de contenu, j'imagine, qui commencent là-dedans, ce rapport à la communauté et la peur d'Internet et des réactions de la communauté, c'est... Ouais, c'est quelque chose qui fait peur. Pareil, beaucoup de travail sur moi-même de ce côté-là pour arriver à prendre de la distance, me raisonner, accorder moins d'importance aussi à certaines choses. Ça a été un travail de longue haleine. C'est toujours pas fini, mais ouais, effectivement, au début, c'est ce qui m'a fait le plus peur.
Quand tu dis ça a été un travail de longue haleine, et est-ce que tu peux me dire un peu en quoi ce travail a consisté? Parce que, tu sais, il y a toujours ce dicton, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Ouais.
Et je pense que tout le monde peut raisonner. Enfin, à chaque fois, j'ai le terme anglais qui me vient, genre « you can relate »,
ouais,
tu vois. Mais même
ouais,
moi, tu vois, c'est, je me dis qu'il faut que j'accorde mon importance. Et parfois, j'y arrive. Moi, la méditation, par exemple, m'a aidée. Mais tu vois, je trouve ça cool de donner des petits conseils concrets qui peuvent aider les personnes qui nous écoutent.
Ça passe par beaucoup de choses. C'est passé par pleurer dans la douche, de la méditation, comme tu dis, des séances chez le psy aussi à un moment, parce que j'ai eu une grosse période où je faisais des insomnies à cause de tout ça, où je me répétais en tête les choses ou les messages que j'avais pu lire. Donc, il y a eu toute cette période d'incompréhension où j'étais face à ce... J'ai envie de dire mur de haine, mais c'est plus mur de réaction, parce que j'étais dans mon cocon, et puis tout d'un coup, bah, j'étais sur Internet avec des personnes qui me regardent. Donc ouais, déjà, accepter que ces réactions peuvent exister, apprendre à les filtrer, et ça, c'est vraiment la thérapie qui m'a aidée, thérapie et méditation, vraiment, parce que bah, aujourd'hui, il n'y a plus une fois où je vais à l'antenne sans au moins prendre 5 ou 10 minutes pour méditer ou pour me poser. C'est des choses que j'ai appris, je savais même pas que j'en avais besoin à la base, tu vois, c'est à force d'écouter des personnes qui m'ont dit « tu devrais essayer ci, tu devrais essayer ça ». Sophrologie, j'ai essayé aussi, tu vois, c'était pas forcément ce qui me correspondait le plus. Mais ouais, c'est à force d'être ouvert, de prendre des expériences de personnes qui, elles aussi, ont pu traverser ça avant. Et ouais, aujourd'hui, c'est vraiment la thérapie, je pense, pendant quelques mois, et la méditation qui m'ont beaucoup aidée.
Ok,
et
ouais,
l'expérience
ouais.
aussi, j'imagine.
J'imagine aussi, puis réaliser au final, au fur et à mesure, qu'en effet, c'est pas contre toi. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée dans la méditation, je pense à des méditations donc guidées que je fais, Seven Mind, j'en parle à chaque fois, donc je pense que maintenant, les personnes qui écoutent savent que c'est mon appli méditation, mais où, notamment, à un moment, Jonathan a dit, en fait, il répète des affirmations, et je sais plus quels sont les termes exacts, mais où il dit, en gros, il faut pas prendre les choses personnellement.
Ouais.
Parce que la critique que tu peux recevoir en dit beaucoup plus long sur la personne elle-même que sur toi. Et qu'en fait, au début, moi, j'y croyais pas trop, parce que je me dis, bah non, si la personne, elle me dit que, je sais pas, voilà, mon poste, c'est de la merde, bah, c'est que vraiment, elle le pense, tu vois, et parfois, ils ont des arguments. Mais en fait, ils t'expliquent vraiment que, et ça, c'est vrai que ça m'a aidé à réaliser, en fait, si la personne, elle aime pas ton poste, elle a pas besoin de le dire.
Mm-hmm.
Elle le pense très fort. Elle continue sa journée, toi et moi, on est comme ça. Je pense que si on voit un truc qui nous plaît pas sur les réseaux, ben soit on vit avec. Mais prendre le temps d'attaquer quelqu'un, c'est forcément que la personne a un problème avec elle-même. Et ça, ça m'a aidé vachement à me dire, ok, en effet, et en fait, Jonathan dit, et c'est très fort, en fait, c'est de la compassion qu'il faut avoir pour ces gens-là. Mm-hmm. Et quand on arrive à transformer la haine en compassion, voilà, Bouddha, si tu nous écoutes.
Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi récemment, hein, et aussi d'essayer de voir vraiment, bon, encore une fois, l'anglais c'est horrible, la big picture, même dans, dans tout ce qui est le plus négatif, se dire ok, c'est formulé comme ça, peut-être que la personne voulait aussi penser ça, peut-être que cette personne passe une mauvaise journée, peut-être que cette personne n'a pas confiance en elle, et aussi, bah, on a le droit de pas aimer une personne. Les gens peuvent aussi vouloir partager les choses sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes avec qui ils interagissent, ça sort parfois de manière violente, mais ouais, une fois qu'on arrive à ne pas se laisser submerger par ça, je pense que c'est le moment où voilà, on a fait le travail sur soi-même, en tout cas pour par rapport à la perception aux autres. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont assez malheureuses, peut-être assez solitaires sur les réseaux sociaux, et qui ont besoin de l'exprimer du seul moyen qu'ils ont, peut-être. Oui, effectivement, compassion, comprendre, essayer de discuter avec les gens aussi, même quand c'est difficile.
Ouais.
Puis ça les fait changer d'avis, souvent. Je sais pas si c'est quelque
mais
chose
que t'as
remarqué.
Mais si, mais totalement. Mais je crois que, je sais pas si c'est dans l'épisode avec PH, justement, où je parle de ce poste avec sur la précarité menstruelle, tu vois, j'allais dire avec Nana, alors que c'est même pas un poste en collaboration avec Nana. Mais il y a tellement de gens qui m'ont mis l'étiquette que même moi, maintenant, quand j'en parle, je dis ça, mais bref. Où en fait, je disais. En fait, c'est pire parce qu'à un moment, j'ai checké mes DM et en fait, j'ai répondu à une personne qui m'attaquait et qui m'envoyait notamment donc, le post que quelqu'un d'autre avait fait.
Bien sûr.
Et je lui expliquais, ben voilà, c'est un post bénévole, je ne suis pas rémunérée par qui que ce soit pour ce post, c'est moi qui contactais Nana pour savoir s'il pouvait être donateur.
Mmh.
Oui, les femmes dans la rue ont besoin de protection hygiénique, quelle que soit la marque, c'est ça, ou du papier journal. Et ben voilà, si jamais tu as d'autres idées, ben n'hésite pas à toi à faire bouger les choses pour aider les personnes en situation de précarité menstruelle. Et en fait, la personne m'a répondu « Ah bah écoute, merci, j'avais pas vu les choses comme ça. » Et donc en fait, là, je suis tombée dans un piège où je me suis dit « Ok, quand je leur explique, ils me comprennent. Mmh. » Donc comme tu dis, ils changent d'avis. Et donc j'ai passé genre, mais peut-être de minuit à 2h du matin, un 26 décembre, tu vois, à répondre au plus de messages négatifs que j'avais par DM. Et en fait, je suis ressortie de là, je me sentais même pas mieux. Et en fait, pareil, en méditation, il y a cet enseignement où il dit, en fait, il faut apprendre à relâcher. Je crois que encore ce matin, je méditais. Et à un moment, l'affirmation, c'était « je relâche le besoin de convaincre ». Et c'est ça, en fait. Je me suis dit, putain, ça m'a vraiment fait écho à cette situation où j'essayais à tout prix de convaincre les gens du bien fondé de ma démarche. Alors que je crois que le mieux pour notre santé mentale, ça reste de se détacher complètement et de se dire que de toute façon, on ne pourra pas faire changer tout le monde d'avis. Et c'est, voilà, comme tu dis, tout le monde ne doit pas t'aimer. Et si on ne comprend pas ce que tu fais, c'est la vie, quoi.
Ouais. Et en tant que personne publique, j'ai l'impression que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on réponde. Donc du coup, quand ils se rendent compte qu'on est réellement des êtres humains et qu'on n'est pas des cartoons derrière notre écran, bah, ça leur fait un choc. Donc du coup, ils sont obligés de nous traiter en tant qu'humains. Mais ouais, je suis d'accord. Pour la santé mentale, moi, de toute façon, je lis mes DM parce qu'il y a tout un tas de personnes formidables qui m'envoient des messages et j'ai pas envie de passer à côté. Mais ouais, passer trop de temps sur les haters, j'ai arrêté.
Ouais, je pense qu'en effet, il faut privilégier la santé mentale. Mais tu vois, c'est cool si on en parle un peu. J'en parle pas dans beaucoup d'épisodes. Donc là, si on est lancé sur le sujet, mais est-ce que toi, c'est quelque chose avec lequel t'as toujours été OK? Est-ce que t'as eu des phases plus difficiles? Et qu'est-ce qui t'aide peut-être à prendre soin de ta santé mentale au quotidien?
C'est par phase, en fait. Au début, on va dire qu'à la base, on partait d'une image qui était vraiment gris, noir, où il y avait beaucoup de sentiments contraires, de choses que j'arrivais pas à comprendre, du fait que j'étais nouvelle dans ce travail. Aujourd'hui, je dirais que c'est des hauts et des bas. Plus de hauts que de bas, évidemment. Mais il y a un matin où je vais me lever et où je sais pas pourquoi je vais réagir face à un commentaire qui m'aurait peut-être rien fait la veille.
Ouais.
Et c'est cet aspect-là que j'ai encore un petit peu de mal à gérer. Mais c'est toujours compliqué de se dire je dois me détacher de la perception des autres tout en continuant de faire des choses qui plaisent aux gens, parce que mine de rien, oui, je fais les choses parce que ça me plaît, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui aiment l'écouter. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre un retour et une critique qui va être constructive et quelque chose qui doit être complètement délaissé? Je pense pas qu'il y ait de technique propre, je pense que c'est vraiment personnel. Et comment dire, la santé mentale, je trouve que c'est une étape. Je sais pas si ça a été la même chose pour toi, mais moi, c'est des questions que je me posais pas à la base, en fait, quand j'ai commencé à faire ce genre de choses. Je pensais que ça allait être facile et je pensais que le temps que je passe à faire mes vidéos, le temps que je passe sur Twitter, le temps que je passe sur Instagram, c'est mon travail et ça en fait partie. Et t'es obligée d'apprendre à faire des coupures avant que ça devienne trop invasif, en fait. Et je pense que j'ai atteint ce point l'an dernier où j'écoutais beaucoup trop ce que disaient les autres, je lisais beaucoup trop ce qui se disait sur les réseaux sociaux à mon sujet, au sujet de l'écosystème. Et à un moment, juste, faut stop, quoi. Et ma carrière ne va pas s'arrêter, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que j'arrête de checker Twitter et je ne vais pas... En fait, c'est cette course, il ne faut pas que je rate quelque chose dans mon écosystème, c'est ça qui est important. C'est si jamais je ne suis pas sur Twitter pendant 2 minutes, je vais rater le monde. Et une fois qu'on est d'accord avec le fait qu'il n'y a pas mort d'homme, si tu n'es pas au taquet sur une news parmi 3500, ce n'est pas grave. Ça aussi, ça fait partie de la santé mentale, je pense. Et c'est de la discipline, savoir s'écouter et apprendre à se connaître, en fait. Je pense que je ne me connaissais pas il y a un an comme je me connais aujourd'hui. Et c'est en faisant des tests et même en faisant des erreurs, je pense qu'on apprend à vraiment se préserver.
Ouais, c'est marrant que tu en parles. Au final, j'avais vraiment aussi cette peur de rater, ce FOMO. Et ça a été un gros challenge pour moi de faire une retraite silencieuse pendant 3 jours où j'ai coupé. Parce que j'avais jamais fait, tu vois. Je sais pas si toi, t'as déjà fait
Vu, justement. Moi, ça m'a fait peur.
Ouais,
j'ai énormément de respect pour ce que t'as fait parce que moi, rien que d'y penser, ça me fait peur, tu vois, me dire silencieuse, déconnexion.
Honnêtement, même encore aujourd'hui, je réalise pas que je l'ai fait et je me dis, franchement, à mon avis, je l'ai aussi fait une période plus tranquille. Mm-hmm. C'était le nouvel an, donc a priori, il se passe pas non plus des trucs de ouf. Je suis pas partie au moment où j'avais un lancement, où tu vois, donc. Mais ça m'a fait énormément de bien. Je pense que ça te ferait du bien parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais cet engagement avec toi-même, en plus, c'est silencieux, tu vois, c'est pas que méditatif. Donc, en fait, tu parles pas, tu peux interagir avec personne. Et donc, en fait, t'apprends très vite à relâcher le besoin, alors dans mon cas, le besoin de faire. Qui vraiment, tu vois, c'était assez terrible parce que ma grande question, c'était est-ce que ça va vraiment, je vais en ressortir des bénéfices sur le long terme de cette retraite, tu vois. Et je pense que j'en ai pernicieux qui se manifestent pas encore. Mais 3 jours après, j'étais revenue à Paris et j'étais repartie dans la frénésie. Donc, c'est un peu ça que, voilà, j'espère qu'avec la méditation, j'arriverai à modérer. Mais vraiment, autant à Paris, j'ai toujours besoin de faire plein de choses et je m'épanouis aussi dans ça, en voyant les choses avancer, etc. Mais il y a une course à je ne sais pas quoi qui parfois je trouve n'est pas saine. Mmh. Et ces 3 jours où en fait j'avais juste besoin d'être là, tu sais, c'est con, mais moi personnellement, du coup, j'ai associé un peu ma valeur à ma productivité. Mmh. Et en fait, se dire que tu peux exister sans avoir besoin de rien faire. Moi, dans ma tête, c'était genre, bah, ta vie vaut pas le coup. Enfin, je pousse le trait de ouf, hein, ouais, parce qu'en vrai, je pense pas ça. Et tu vois, ma sœur jumelle qui n'est pas exposée sur les réseaux, quoi, je l'adore et elle a vachement de valeur. Et pourtant, voilà, elle fait son petit bout de chemin et tout. Mais dans mon cas, c'est vrai que me dire que 3 jours, je fais rien.
Là, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose et perdu mon temps. Hein.
Exactement. C'est et pourtant, sur le moment, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Mm. Je l'ai vécu en mode, bah, t'as 3 jours pour juste faire ce que tu veux. Et genre, j'ai énormément lu. Des romans, tu vois, j'adore, donc on a quand même le droit de lire, parce que dans certaines retraites silencieuses, t'as le droit à rien, okay. T'es face à toi-même, et là, c'est vraiment très très dur. Ouais. Mais là, on avait quand même des séances de méditation, il y avait des talks donnés par des intervenants, des séances de balade dans la forêt, donc reconnexion à la nature, et ça m'a vraiment reconnectée, en effet, avec juste, ben, tu vis, et c'est déjà assez, en fait. Mm. On est parti très loin.
Ouais, non, mais j'adore. Mais c'est hyper important parce que je pense qu'en tant que créateur de contenu, c'est une question qu'on se pose souvent. Et au final, bah, si tu n'as pas ces moments où ton cerveau peut juste déconnecter, se recentrer sur lui-même et te recentrer sur toi-même, t'es moins créatif. Mm. Et c'est difficile d'entendre ce genre de choses. Et comment dire, il y a aussi ce côté, les gens te font confiance pour faire du contenu et t'as pas envie de les décevoir,
ouais,
de l'autre côté. Et rien que le fait de partir un jour ou deux, moi j'ai l'impression de les décevoir parfois. Mais ouais, c'est une discussion hyper vaste. Genre, et j'ai pas souvent l'occasion d'en parler, donc je suis vraiment contente. Mais ouais, je trouve que c'est une recherche qui est constante, vraiment.
D'équilibre,
D'équilibre qui est hyper personnel.
Ouais.
Parce que moi, c'est vraiment en prenant des choses à droite, à gauche que j'ai réussi à me constituer un équilibre qui me correspond aujourd'hui. Et j'encourage toutes les personnes qui se lancent vraiment dans la création de contenu à faire la même chose, à un moment se poser cette question, parce que le burn-out arrive plus vite qu'on le pense. Et une fois que les dégâts sont faits, c'est encore plus dur à rattraper.
Ouais. T'en as déjà fait un, toi, ou...
Je suis pas passée loin. Il y a 1 an et demi, je faisais 39 kilos.
D'accord.
Ouais. Pour 1m60. Donc j'étais vraiment, vraiment au bout du rouleau. C'est mon conjoint qui a tiré la sonnette d'alarme, ma famille pareil.
Ouais.
Et j'ai pris 2 semaines. J'étais hyper triste les premiers jours parce que j'avais pas du tout envie de prendre du temps pour moi. Mais au final, ça a été une bénédiction parce que je pense que si j'avais tiré la corde encore comme ça, c'est... Je sais pas dans quel état j'aurais fini vraiment. Ouais. Mais ouais.
Qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivée à ce point-là?
Ah, j'étais pas contente de moi du tout, j'arrivais pas dans le boulot, j'avais commencé un travail en anglais, donc faire ce que je fais, poser des questions, faire des interviews de joueurs, mais en anglais, donc faire du broadcast en anglais, et tu as eu une expérience aux États-Unis, donc voilà, travailler en anglais et interagir avec des gens en anglais, c'est des choses complètement différentes, et j'ai été mis face à la réalité des choses qui est que bah, même si je sais parler anglais avec mes potes, ça veut pas dire que j'ai un niveau BBC broadcast anglais, et voilà, ça a mêlé aux critiques, à tout ce qui se passait. J'étais pas contente de moi, les gens n'étaient pas contents de moi, je n'endormais pas la nuit, donc j'arrivais le lendemain en chaud, c'était une catastrophe, et c'était cette spirale infernale qui a fait que bah, je dormais pas, je stressais, et j'arrivais pas à m'en sortir, vraiment. Mmh. Et je n'écoutais pas assez les gens, je pense, aussi, à ce moment-là, qui me disaient de prendre soin de moi, qui me disaient de faire attention. Et je regrette, mais d'un côté, bah, c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre ce qu'elle n'est pas et d'aller mieux aujourd'hui. Mais ouais, ça a été un passage difficile.
Ouais, et je ne sais pas si c'est lié, mais bon, vu que moi aussi, ça s'est répercuté au final, parfois, sur mon poids et ma relation avec la nourriture. Toi, c'était... Enfin, juste, tu n'avais plus envie de manger. Est-ce que c'était une forme de trouble alimentaire ou...
Je ne me laissais pas le temps de manger. Je me levais le matin, j'allais regarder des stats parce qu'il fallait que je sois absolument au point. Je prenais des, enfin pas des cours de langue en ligne, mais voilà, similaire à des cours d'orthophoniste un petit peu, tu vois, pour essayer de travailler
ta diction,
ma diction et mon aisance pour parler en anglais. Je faisais des journées de malade mental, j'arrêtais jamais, puis même quand j'éteignais mon PC le soir, bah, ça tournait dans ma tête, donc je dormais pas, donc ouais, c'était, j'oubliais de manger, je sais pas que je voulais pas, c'est juste que j'oubliais. Et du coup, ce moment où t'as tellement faim que t'as plus faim, bah, je l'ai dépassé vraiment, et je m'en suis pas rendu compte, c'est dingue.
Et je me dis, dans tout ça, du coup, même ta vie perso, t'as fait... Enfin, parce que moi, je me rends quand même compte, tu vois, quand je travaille trop, en effet, des amis, tu vois, que je vois moins mes amis, ou que mon copain peut me faire des commentaires et tout. Toi, quand t'es arrivée à ce stade, je veux dire, ton copain, tu le voyais encore? Tes amis, c'était...
Alors justement, j'ai une vie un peu particulière puisque j'habite à moitié en France.
D'accord.
Et donc j'habite à moitié à Paris, à moitié en Allemagne, à Berlin. Et tout ça, c'était pendant une période où j'étais toute seule à Berlin. Donc il n'y avait littéralement personne derrière moi pour vérifier que ça allait bien ou non. Et non, c'est au moment où je suis rentrée justement un mois et demi plus tard à l'aéroport et que mon copain est venu me chercher à l'aéroport et qu'il m'a dit « Il y a un problème, tu vas manger tout de suite ». Là, j'ai réalisé. Mais avant, non, j'étais toute seule et j'avais pas la discipline encore toute seule à l'époque pour me rendre compte, voilà, qu'il
Ouais,
faut
ouais.
relâcher la pédale quand ça va
Bah,
pas.
encore une fois, c'est le problème de la passion, tu vois.
C'est
C'est
ça.
que, enfin, c'est un vrai privilège de vivre de sa passion et c'est certain, mais c'est aussi un piège parce que c'est pas le taf que t'as envie d'arrêter à 18h. Bah, non. Et moi, franchement, je dis ça à chaque fois. Franchement, j'ai l'impression que je suis l'hôpital qui se fout la charité parce que, en ce moment, j'ai énormément de sujets et du coup, je me dis, ah bah c'est grave, je finirai après manger. Et donc après manger, je m'en mets dessus à 22h jusqu'à minuit. Puis après, bon, il y a, tu sais, les trucs perso aussi, comme décorer mon appart. Bah, j'ai pas le temps, bah je le fais de minuit à 1h du coup,
C'est
tu vois.
ça.
Et puis je prends ma douche de 1h à 1h30. Et donc au final, c'est vrai que c'est super dur de savoir se mettre des barrières.
Ah, bien sûr. Et cette année n'a pas aidé, hein, je trouve,
Ouais,
avec
c'est
tout le
vrai.
télétravail, etc. Parce que bah, je pense que justement, les gens ont peut-être eu, d'un côté, un aperçu de ce genre de vie, parce que moi je travaille tout le temps chez moi en fait, donc le confinement ça a pas changé grand chose. Donc, ouais, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de césure entre la journée de travail et le moment où je vais vouloir me détendre, c'est un combat tout le temps. Mais c'est là où je trouve que prendre soin de sa santé mentale est important, et c'est là où s'imposer une discipline, une routine. Moi maintenant c'est 18h, j'éteins mon PC, je vais faire un tour 10 minutes dans la rue et ensuite je reviens parce que je suis dans un mood où le travail est fini et je vais faire complètement autre chose. Mais c'est des petits rituels, je pense, comme ça qu'il faut
Ah, donc
s'imposer.
toi, t'as réussi à t'imposer des horaires de travail.
Ouais, depuis 2 mois. Donc
C'est
c'est très
beau, il faut que je m'en
récent.
inspire. Mais en fait, moi, ce qui me
Même un jour off,
stresse...
tu vois, c'est bête, mais parfois je me disais, oh vas-y, j'ai pas de jour off cette semaine, bon, j'aurai peut-être un week-end la semaine prochaine. Et là, maintenant, je travaille avec une fille qui est absolument formidable, qui est, j'ai envie de dire, à moitié manager, à moitié coach de vie, qui a commencé à s'occuper de moi il y a 2 mois et qui m'a dit, non mais Laure, c'est pas possible, tu t'imposes un jour off par semaine. Oui, mais si j'ai une réu, oui, mais si j'ai... Non, c'est ce jour pour toi. Tu lis, tu fais ce que tu veux, tu déconnectes les emails, mais rien que voilà, s'imposer un jour off par semaine, j'ai beaucoup de mal à le faire.
Et t'en ressens les bienfaits?
Non,
Ok.
tu sais quoi, enfin, aujourd'hui oui, mais les premiers étaient horribles parce que tu te lèves le matin et t'es là, oui, mais j'ai ce sujet qui est en attente, ah, mais j'ai ça aussi, ah, peut-être qu'on m'a envoyé un mail. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le monde va pas s'arrêter de tourner, à moins que ce
Ouais.
soit un truc urgentissime, les gens trouveront un moyen de te joindre de toute façon. Donc on a besoin, je pense, de mettre des barrières au travail qui peut devenir invasif aussi, parce que la passion, certes, c'est quelque chose qui nous consume, mais les gens avec qui on interagit de l'autre côté ont tendance à se servir aussi un petit peu de cette passion pour en demander beaucoup. Donc ouais, voilà,
En
fermer les
fait,
vannes
ce avec
financières.
quoi j'ai du mal perso, bon, ça n'aide peut-être pas que mes vidéos YouTube sortent le dimanche, mais c'est que du coup, en fait, si jamais j'ai pas fini quelque chose, je me dis, bah, je suis obligée de le faire le week-end. Tu
Bien
vois,
sûr.
souvent, le week-end, bah, du coup, je termine ma vidéo, le montage, je fais la miniature, ou alors je finis d'éditer un podcast. Et sinon, c'est après autre chose sur laquelle j'essaie de travailler, mais c'est peut-être se dire, c'est pas grave si tous les dimanches, il n'y a pas quelque chose. Et d'un autre côté, ça aide, je trouve, d'avoir un rythme
Ouais.
régulier, parce que sinon, moi, je me connais, si je me dis, bon, bah, c'est quand je veux. Par
Tu
exemple, je
fais
crois que j'ai
plus.
déjà donné l'exemple, quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai fait une vidéo par jour pendant un mois. Et j'ai réussi sans problème. Si, c'était dur, mais j'ai réussi. Il n'y a pas un jour que j'ai pas fait. Et je me suis dit, bon, bah, fin septembre, maintenant octobre, je passe à une fois par semaine. J'ai pas réussi à sortir ma vidéo la semaine d'après. J'avais pas fini, mais parce qu'en fait, c'est... Ouais, il y a aussi le rythme qui joue, tu vois.
Ouais, et on est obligé d'être régulier, hein, de l'autre côté,
Ouais.
encore une fois, dans la création de contenu. Donc, c'est très difficile parce que je pense que. Et peut-être que PA, à qui t'as parlé la dernière fois, tu vois, lui, va avoir une autre discipline de ce côté-là, mais je pense que c'est des périodes. Ouais, je pense que c'est des périodes avec des rythmes différents aussi. Je pense que quand tu commences, t'es obligé, d'une certaine manière, à passer plus de temps, faire peut-être des choses. Je devrais pas dire ça, mais faire des choses que ton corps devrait pas faire et pousser ton corps à des limites qu'il devrait pas,
Bah,
mais. Ouais.
franchement, moi perso, tu vois, typique, je suis jamais passée à côté du burn-out.
Ouais.
Enfin, j'ai vécu un moment très difficile à l'étranger, mais qui était lié plus à mes hormones qu'au travail. Donc, je pense pas que ce soit mettre. Je pense que le corps, justement, est un signal. Je
Oui.
pense qu'on ne devrait jamais se mettre dans la place où le corps nous envoie des signaux et on les écoute pas. Mais tant que le corps va bien, voilà, j'ai 23 ans. Moi, je me dis ça, parce que je me dis, bon, ça fait vraiment que 2-3 ans que je bosse à plein temps, à fond. Je pense que c'est le moment aussi. J'ai pas de vie de famille, j'ai pas de... Chaque chose en son temps, les entrepreneurs avec qui j'ai discuté ont tous dit, les premières années de ma boîte, je me donnais à fond. Après, je suis aussi pour essayer de s'imposer quand même... Enfin, honnêtement, je pense que ça dépend des semaines, mais globalement, je m'accorde quand même plus de temps off que les années précédentes.
Ouais.
Je pense que ça va s'aller que en s'améliorant.
Bien sûr.
Mais voilà, moi je me dis ça. Mais je pense que tu vois, là où toi t'es arrivée, là c'était un truc au signal que t'as pas vu, mais parce qu'en même temps t'étais pas entourée.
J'ai complètement ignoré. J'étais dans mon truc et j'aurais jamais dû. Mais je pense que ça va aussi avec le côté freelance et la précarité du fait d'être freelance, le fait de se dire ouais, aujourd'hui ça va bien, mais dans 6 mois, mais dans 1 an, mais dans 2 ans. Et on en revient à la question de l'e-sport. Hein. À un moment, on se demandait vraiment si l'e-sport, c'était quelque chose qui allait rester, ou si c'était qu'une bulle qui allait exploser, ou si c'était qu'une mode qui allait passer. Je pense qu'on est au-delà de ces questions aujourd'hui. Mais il y a toujours ce côté, est-ce que je serai toujours aussi pertinent dans 6 mois? Est-ce qu'on aura toujours besoin de moi dans 6 mois? Est-ce que la personne qui m'emploie aujourd'hui voudra bosser avec moi l'an prochain? Donc c'est toutes ces questions et tout ce stress qu'il faut filtrer. Ça passe par la confiance en soi.
Hein. Ouais. Parce que comment tu vis toi du coup maintenant, est-ce que t'es toujours freelance ou est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais à l'avenir pour peut-être ne plus vivre ce stress de l'incertitude?
C'est quoi le pire, c'est que je suis quelqu'un de très stressé vraiment, mais je me verrais pas vivre autrement. Je me vois pas travailler 24 heures sur 24 pour n'importe quel des prestataires pour lesquels je travaille. Et pourtant, je les aime tous énormément et j'adore ce que je fais. Mais si je devais faire ce que je fais partout, mais 24 heures sur 24 et me faire que ça, des horaires de boulot du 9h-18h, je deviendrais folle. Moi, ce qui me plaît, c'est de bouger, c'est de rencontrer plein de monde, c'est de pouvoir voyager. Et encore une fois, je suis jeune, donc je peux le faire parce que mon corps me permet de le faire. Le jour où j'en aurais marre, je me poserais plus, évidemment, en France avec mon copain. Mais là, aujourd'hui, moi, non, je me verrais pas faire autre chose. Freelance, c'est vraiment ce qui me correspond. Donc le stress, on va dire que ça fait partie du jeu et c'est quelque chose que... Je préfère travailler dessus plutôt qu'avoir à changer quelque chose qui me plaise, en fait.
Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que d'autres, ce sera l'inverse. Peut-être que le stress d'être freelance... Bah, typique, je sais pas si Fanny nous écoute, qui était ma graphiste. Elle adorait le fait d'être freelance... Enfin, elle adorait le graphisme, travailler pour différentes personnes, elle était vraiment dans le hustle. Et en fait, c'est quelqu'un de très, 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 très stressé. Et elle a notamment fait le site de je ne sais quoi, donc de ma marque, donc un gros chantier, tu vois, qui est super beau et big up à toi, Fanny. Mais en fait, après ça, elle nous a dit avec Oriane qui travaille avec moi maintenant, j'ai adoré, mais en fait, mon copain m'a dit que c'est pareil, c'est son copain qui lui a dit... Tu te bouffes. Et en fait, parfois, elle pouvait m'appeler à 2h du matin, alors que moi, j'en mets déjà, parce qu'elle avait une question sur le site. Enfin, c'était même pas son site, tu vois. Et en fait, elle s'est dit, pour l'instant, elle est jeune aussi, tu vois, elle a 20 ans, je crois. Pour l'instant, je vais prendre un taf, le temps de travailler sur moi, parce que je pense que c'est aussi une affaire de confiance en soi. Et puis, elle a raison, tu vois. Et ben, à un moment de ta vie, si juste le stress te tue, enfin, voilà, c'est. En tout cas, t'apporte vraiment beaucoup trop d'effets négatifs dans ta vie, ben. C'est pas grave, c'est pour plus tard et il y a des choses super belles aussi dans le salariat ou dans d'autres statuts, tu vois.
Ouais, c'est sûr. C'est une pression qui est mise un petit peu de ce côté-là de t'as pas le temps de changer d'avis. Si tu t'embarques là-dedans, il faut que tu continues dans cette voie et si tu continues pas dans cette voie, c'est un échec. Et encore une fois, l'être humain est complexe de ce côté-là pour voir de la beauté dans tout, comme tu dis, et être OK avec le fait que tout ne nous correspond pas forcément.
Faut calculer les avantages et les inconvénients de chaque côté. C'est mon côté hyper rationnel, mais ça ment pas, quoi. Donc si vous posez la question, j'espère que voilà, ça pourra vous aider.
Oui.
Et pour parler un peu de la partie voyage que t'as aussi, est-ce que ça, c'était une volonté de ta part? Ça s'est présenté à toi? Parce que j'imagine travailler entre deux pays, c'est pas facile.
C'est pas facile, mais pareil, je verrais pas ça autrement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Mes parents m'ont... J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient en voyage avec eux à chaque fois qu'ils partaient. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était un énorme effort parce qu'effectivement, ça coûte cher de payer des vacances pour 4. Mais ouais, du coup, ils m'ont vraiment donné ce côté-là. Et l'Allemagne, c'est un pays avec lequel j'ai toujours eu beaucoup d'affinités.
J'adore l'Allemagne.
C'est génial. Berlin, c'est génial.
J'adore l'Allemagne, les Allemands. Enfin...
Le rythme de vie allemand, ouais. Même la conscience écologique des Allemands, c'est
la bienveillance, la politesse. Enfin...
Ouais, c'est des gens qui sont vraiment gentils et bienveillants, alors que tu vois, quand on parle des Allemands de l'extérieur, on a l'impression de personnes hyper rigides.
Ah ouais.
Mais ouais, non, c'est vraiment un pays dans lequel je me plais énormément. Et pareil, tu vois, je me verrais pas vivre complètement à plein temps en Allemagne, mais le fait d'alterner et d'avoir cet équilibre où j'ai ma vie du week-end et j'ai ma vie de la semaine, c'est quelque chose qui me correspond ouais, pour l'instant beaucoup. Et si le Covid n'était pas là, il y aurait aussi les États-Unis.
Mais ouais. Ouais. Et du coup, Allemagne, c'est en anglais que tu...
Ouais.
Ok, d'accord.
Absolument, absolument. En fait, l'entreprise pour laquelle je travaille est basée en Allemagne, puisque pour des raisons financières, faire de la production en Allemagne, ça coûte moins cher que dans d'autres pays d'Europe. Donc ouais, ils se sont basés là-bas, c'est une entreprise américaine qui a son antenne européenne en Allemagne.
D'accord. Et donc, voilà. D'accord, c'est fou. Et tu vas tous les combien de temps à peu près hors Covid?
Hors Covid, toutes les semaines. C'est début de ma semaine, lundi, mardi, mercredi en France. Ouais. Jeudi, je prends l'avion jusqu'au dimanche où je suis en Allemagne. Et je reprends l'avion dimanche pour revenir le lundi.
Ok. Ouais. Et ça, niveau vie de couple, c'est pas trop compliqué?
On a toujours été un peu habitués comme ça.
Ouais.
C'est un équilibre qui nous va, honnêtement, pour l'instant, en tout cas. Tu vois, on n'est pas du tout dans le mood vie de famille. On a vraiment envie de vivre notre aventure entrepreneuriale chacun de notre côté. Puis c'est ce qui fait que notre couple marche, le fait qu'on se soutient vraiment de ce côté-là. Donc oui, c'est dur par moment. Hein, quand je pars par période de un mois et demi, c'est dur. Mais quand je reviens, on a des choses à se raconter. Puis c'est une redécouverte, j'ai l'impression, à chaque fois. Ça fait 4 ans et quelques là qu'on est ensemble. Je l'ai pas vu les 4 ans passés. Et c'est la première fois que je peux dire ça d'une relation. Il n'y a aucune lassitude et on est hyper bien ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'arrive à aussi bien fonctionner dans mon boulot, parce que c'est un pilier qui est essentiel et voilà, c'est un rythme de relation qui nous convient.
Ouais, en effet, je pense que ça dépend des personnes en fait. Hein, et quand tu trouves la bonne personne, la question se pose déjà moins. Est-ce que tu as en tête une expérience particulièrement marquante que tu as vécue là au cours de tes dernières années de ta carrière qui pourrait peut-être nous donner un aperçu de ce à quoi ressemble ta carrière, tes événements
Je pense que l'événement qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'était une finale qu'il y a eu en 2017. Alors pour remettre un petit peu de contexte, le jeu pour lequel je travaille s'appelle League of Legends, et League of Legends ça évolue comme le football, on va dire. T'as une saison compétitive à l'issue de laquelle voilà, tu vas avoir des finales de championnat. Et en 2017, la finale du championnat donc européen pour lequel je travaille se déroulait à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Et c'est la première fois que je suis montée sur scène, en fait, tout simplement. Je savais qu'il y avait cet événement de dingue qui arrive, et jusqu'ici, en fait, les événements e-sport, j'y avais participé, mais en tant que spectateur, et c'était la première fois que j'avais la chance de pouvoir travailler sur cet événement. Donc j'ai tout fait en amont pour avoir un rôle à jouer là-dedans, quoi. Pour moi, c'était vraiment hyper important. Ça aurait été le signe que, voilà, on avait franchi une nouvelle étape. Donc j'ai limite harcelé tout le monde pour pouvoir faire les interviews après match des joueurs pour pouvoir monter sur scène. On m'a accordé ça. Après, il a fallu que j'apprenne à le faire, parce que c'est bien beau de convaincre des gens que tu peux faire quelque chose, mais même moi, je savais pas si j'en étais capable. Donc j'ai pris des cours d'expression scénique pour essayer d'anticiper au maximum le fait de se retrouver devant une foule, le fait de devoir faire de la traduction en français et en anglais, parce que ça aurait été le but justement de ce que je voulais faire. Et au bout de 2 semaines où j'avais un stress absolument énorme, l'événement arrive, Bercy arrive, donc l'Accor Hotel Arena, et ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense, ce moment où je suis montée sur scène, où je regarde autour de moi, et où je vois littéralement 15 000 personnes, enfin j'ai pas vu les 15 000 personnes, mais je vois un amas de monde, j'entends un énorme brouhaha, et le moment où je commence à prendre la parole et à annoncer le nom du joueur que je vais interviewer, l'euphorie dans le stade, l'énergie des gens que tu peux ressentir vraiment, genre ça t'électrifie, c'est hallucinant. Je fais mon interview, mon segment, je descends de scène. À la seconde où je pose le pied par terre de la scène, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Je réalisais pas, quoi, vraiment. Et c'était un des plus beaux événements de ma vie, et c'est des moments d'adrénaline qu'on a peu dans ma carrière, hein, des moments comme ça. J'ai eu la chance de faire pas mal d'événements similaires depuis, de retourner à l'Accor Hotel Arena pour faire un événement. Mais ouais, la première fois que je me suis retrouvée au beau milieu d'un stade comme ça, avec tous ces gens, c'est incomparable. Et on se rend compte que la passion, finalement, tu vois, je te disais tout à l'heure qu'on se sent un peu seul. Comment tu peux te sentir seul quand tu vois des milliers de personnes comme ça qui résonnent et qui vibrent avec la même chose que toi?
Ouais, non, c'est vrai que ça doit être assez incroyable. Et en fait, tu vois, c'est le cas pour l'e-sport, mais en fait, je me rends compte, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de domaines qu'on connaît pas forcément. Mm-hmm. Qui pourtant attire beaucoup de gens. Enfin, tu vois, je sais pas pourquoi, mais là, quand tu parles de rassemblement, je pense à des films, tu sais, ou notamment aux États-Unis, tu vois, des rassemblements genre sur des personnages de films ou de dessins animés, ou tu vois, qui sont passionnés de comics, tu vois, il y a des rassemblements de comics. Et en plus, c'est vrai que comme c'est une passion plus niche, quand tu rassembles des personnes passionnées d'un même sujet, qui n'est pas forcément consensuel ou quoi. Mm-hmm. T'as une proximité, une énergie assez dingue.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui a fédéré l'e-sport, hein, vraiment. Et le fait que, justement, je pense... 2013, c'est le moment où j'ai fait mon premier événement en physique. C'était le premier événement e-sport en France. Et ouais, pareil, c'était un moment dans ma vie où j'étais un peu mal dans ma peau, où les jeux vidéo, c'était un truc un peu secret, parce que bon, t'as pas trop envie de dire que tu joues aux jeux vidéo quand t'es une fille et que tu appartiens à un groupe de copines au lycée. Enfin voilà, socialement, ce n'est pas acceptable. Donc je me sentais un peu seule à ce moment-là et je suis arrivée à cet événement. Et ouais, pareil, tu découvres que bah, t'es pas la seule à regarder ça et vous êtes des milliers. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, vraiment. Et c'est incroyable de découvrir, voilà, des domaines, comme tu le dis, où on se douterait pas qu'il peut avoir ce genre de passion, ce genre d'engouement, c'est fabuleux.
Et surtout le fait que tu sois passionné toi-même, parce qu'en fait, je pense que ça se ressent, tu vois, quand tu interviews des gens et que tu sais de quoi tu parles. Et c'est ça, parfois, personnellement, que je trouve... Enfin, je trouve que ça se ressent, en fait, dans les émissions de télé. Ouais. Je vais pas en citer, tu vois, mais quand c'est juste des questions un peu plan-plan, j'ai envie de dire, et quand il y a un réel intérêt derrière... Ouais, qu'il y a une passion commune et que ça t'anime. Est-ce que toi, t'as déjà... Tu veux...
Non, tranquille.
T'es sûre?
Oui, je suis sûre.
Est-ce que toi, t'as déjà joué aussi en public par rapport à ce que tu fais ou pas?
Ah, en public, non.
Enfin, non. Tout cas, est-ce que sur tes réseaux, bref, dans ta carrière, tu montres que tu joues et tu montres tes jeux, ou c'est vraiment plus la partie derrière le micro?
Plus la partie derrière le micro, parce que... Alors, j'ai jamais été... Déjà, je suis pas bonne aux jeux vidéo, hein, j'aime beaucoup ça, mais je suis vraiment pas douée. Et je trouve que les gens qui stream sur Twitch, généralement, c'est des gens qui vont avoir un assez bon niveau. Et c'est pas que... J'ai pas envie de me ridiculiser, mais j'ai pas envie de montrer ça aux gens.
T'as voulu y aller pour toi?
Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, objectivement, j'ai plus le temps de jouer du tout. Donc quand je joue, c'est... mon moment perso, mon moment un peu secret avec mes copains de l'écosystème avec qui je partage ça, mais non, c'est ça. J'ai jamais eu l'envie de montrer du jeu vidéo aux gens et de montrer de ce côté-là, en tout cas.
Bah, non,
je
mais
préfère
cool.
en parler.
Ouais, et puis c'est cool de montrer que du coup, t'as pas forcément à te sacrifier, ou enfin que tu peux t'écouter. Est-ce que tu pourrais nous partager une journée type dans la peau de Loire Vallée, même si je pense que chaque journée est différente. Voilà, ça peut être une semaine si c'est plus simple pour toi.
Semaine, ouais, je pense que ça. J'ai plutôt des semaines similaires, on va dire. Alors hors Covid évidemment, parce que là on est dans une période particulière, mais généralement c'est lundi, je me lève, je regarde toutes les news que j'ai pu... la veille un petit peu, genre veille journalistique, ce genre de choses. Je réponds à mes emails l'après-midi. J'ai monté ma boîte récemment, donc voilà, tout ce qui est comptabilité, ce genre de choses.
Oh là là.
La vie entrepreneuriale, on adore. Mais donc voilà, lundi, c'est le jour un petit peu, on catch up avec tout ce que j'ai pu rater. Le mardi, les tournages reprennent. Bein eSport le matin... des tournages pour Berlin l'après-midi, bientôt des tournages pour ma chaîne YouTube que je ferai le mardi aussi. Mercredi, journée de préparation pour mon travail à Berlin, réunion édito, de quoi on va parler cette semaine, qu'est-ce qu'il faut traiter, planification de tout le week-end de show. Jeudi, je prends l'avion, c'est une journée qui est généralement un peu cool, où je profite de mes colocs que je vois rarement qui sont à Berlin. Vendredi, samedi, en émission, on présente le championnat européen de League of Legends, donc c'est toute la journée, c'est des journées où je me lève le matin à 8h et je rentre chez moi du boulot à 1h du matin, donc ça, vendredi, samedi, pour le dimanche repartir en France et passer la journée avec mon copain.
Okay.
C'est à peu près cette boucle-là, avec des projets qui se rajoutent à droite à gauche.
Ouais, et ça change, là, la situation actuelle change complètement ça, ou tu vas quand même en Allemagne?
Je vais pas pouvoir y aller, puisqu'il y a une quarantaine qui est incompressible en ce moment en Allemagne de 5 jours, et vu que j'ai bien le mardi, bah, je peux pas y être le week-end.
Ouais.
Mais c'est là où je trouve que j'ai de la chance, c'est que la boîte pour laquelle je travaille veut vraiment bosser avec moi, et ils ne me remplacent pas, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je puisse le faire à distance, donc cette semaine je vais être capable de reprendre mon travail à distance. C'est la première fois que je serai pas en Allemagne pour la rentrée, entre guillemets, rentrée un peu scolaire, mais ouais, je vais pouvoir continuer de faire tout ça
en remote. On espère que ça sera possible très prochainement.
Ça manque.
Ouais, j'imagine. Bah, surtout quand tu t'es
ça.
Habitué, c'est
bien
clair,
sûr.
T'as goûté à quelque chose. Après, c'est... Enfin voilà, quand ça fait partie de ton quotidien. Moi, pour les voyages, je me rassure un peu. En fait, je pense que j'ai tellement la tête dans, de toute façon, le travail et tout, que ça manque quand je prends le temps d'y penser. Mais si je prends pas le temps d'y penser, vu que moi j'avais pas du tout l'habitude pour mon travail d'aller à droite à gauche, si ce n'est quelques voyages, mais c'est souvent de presse, donc c'était pas forcément du gros taf. C'est comme si c'était des vacances prévues pendant longtemps, et puis tu vois, du coup je réfléchis pas et j'arrive à repousser le moment où, et j'espère que au moment où je prendrai le temps d'y repenser, ce sera le moment où on pourra revoyager.
D'accord.
Mais non, c'est vrai que ça a quand même pas été une partie de plaisir. Et est-ce que tu as aussi des petits tips, des outils pour continuer à progresser, parce que Moi, personnellement, je pense qu'en effet, le but de notre vie aussi, c'est bah, de toujours apprendre, voilà, sans cesse aspirer à devenir un peu la meilleure version de soi-même. Est-ce que tu as des conseils pour ça ou que toi, tu appliques?
J'allais dire, alors, comment dire, la façon dont je vois les choses, pour moi en tout cas, hein, personnellement, c'est de jamais être complaisant, de pas considérer que tout est acquis. C'est pas parce que je suis performante pour faire des émissions aujourd'hui qu'il n'y aura pas une personne peut-être plus performante que moi demain. Et même à titre individuel, je trouve que c'est vraiment bien de jamais proposer la même chose. Certes, une émission s'est bien passée, et ben elle sera encore mieux la prochaine fois. Parce que je vais pouvoir voir, enfin, tous ces petits détails que j'avais pas vus. Et voilà, le but c'est à chaque fois de présenter une version meilleure que la précédente. Et tant que je me fixe cette ligne directrice, j'essaye de ne pas devenir complaisante, parce que bah, au final, avec beaucoup de personnes qui te soutiennent et qui te disent que t'es génial, etc., c'est facile de tomber là-dedans, je trouve. Mais ouais, voilà, tant que je serai toujours. C'est même pas du professionnalisme, c'est juste que je pense que je me le dois à moi-même d'apporter quelque chose de différent à chaque fois et d'avoir l'impression de progresser en tant qu'humain. Donc voilà, rester curieux. Jamais prendre les choses pour acquis et voilà, et essayer de faire mieux à chaque fois pour soi, pas forcément pour les autres, mais pour soi, parce qu'on est content quand on voit qu'on arrive à développer ce qu'on a déjà.
Totalement. Est-ce que tu as une routine ou des petits rituels que tu mets en place au quotidien?
Ah bah la méditation, ça en fait partie, je pense. Le sport, j'essaye de m'y remettre autant que possible, au moins faire des étirements, retravailler ma souplesse. Ça, c'est devenu une routine du matin, qui m'aide à passer une meilleure journée. C'est bête, mais avoir des repas fixes, parce que quand tu travailles chez toi, c'est facile de dire, oh, il est 13h, moi, allez, je peux manger à 16h, 17h, 18h. Et quand tu sors de ton rythme, bah, on en revient à la santé mentale, mais honnêtement, ça en fait partie. S'imposer une routine comme ça sur des gestes qui sont simples, des gestes qu'on devrait avoir en plus, je pense que c'est l'essentiel.
Ok, mais ça me fait toujours rire parce que tu vois, autant je suis aussi hyper happée par mon travail et tout, autant il ne m'est jamais arrivé d'oublier de manger,
C'est
mais
ouf.
genre jamais. Enfin, en fait, j'ai un tel appétit moi que ce
Ouais.
serait pas possible. C'est-à-dire que à 13h, même si j'ai pas faim, ben pourquoi est-ce que je raterais l'opportunité de me faire un bon repas, tu vois. Mais en fait, je me rends compte qu'en effet, j'ai pu être avec des amis qui n'étaient pas du tout dans le même cas de figure. Et ils se disaient, je sais pas, c'est un bypass, tu vois, la nourriture, ok, de toute façon, il y en aura un prochain, tu vois. Et moi, c'est vrai que c'est un truc assez, je sais pas, c'est, voilà, je pense qu'il y a un peu, en effet, je sais que certains qui m'écoutent me comprendront, et d'autres beaucoup moins, mais voilà, petit aparté. Je me demandais aussi, parce qu'au final, moi, c'est vrai que je connais pas du tout bien l'univers encore de l'e-sport, même si je commence à le découvrir. Big up Camille, si tu nous écoutes, c'est grâce à toi. Comment ça se fait même que tu aies une présence hors émission de télé, parce que il y a des présentateurs qui sont pas forcément sur les réseaux, qui sont, tu vois, toi, tu as vraiment une communauté aussi sur les réseaux. T'avais pas encore de chaîne YouTube et de chaîne Twitch avant cette année. Donc ouais, ça vient d'où?
C'est, je pense, la portée des médias pour lesquels je travaille sur Internet, en tout cas. Hein. Je te parlais de la compétition européenne de League of Legends. C'est un show sur lequel on a plus de 200, 300, 400 000 personnes qui se connectent tous les week-ends. Et honnêtement, je me suis toujours posé la question, parce que même parmi mes collègues, voilà, les gens vont apprécier une personnalité ou ne pas l'apprécier, mais c'est tellement aléatoire. Donc je t'avoue que j'arrive pas vraiment à l'expliquer. Les gens, ce qu'ils retiennent chez moi généralement de mon travail et de ce que je fais en plateau, c'est que bah, j'ai une sympathie et une passion qui se voient. En même temps, je joue pas un rôle quand je suis en plateau. Quand un truc me saoule, je vais le dire. Quand quelqu'un a fait un truc génial, je vais le dire. Quand une semaine de compétition était nulle absolument, je vais le dire aussi. Et je pense que c'est cette authenticité que les gens aiment bien. Mais effectivement, ouais, c'est. Justement, en travaillant à la télé, je me suis rendu compte que bah, c'est pas le fait d'être à la télé qui fait que tu vas avoir 200, 300 000 followers. Donc j'ai de la chance, je pense que Internet aide beaucoup de ce côté-là. Twitch énormément, notamment. Parce
Parce que tu
que,
passes quand même sur Twitch,
bien sûr, ouais, voilà,
sur d'autres chaînes,
je suis surtout
mais
présente sur Twitch.
ouais.
Et ouais, je pense que la proximité, c'est là qu'elle se fait.
Qu'est-ce qui t'a motivé à passer le pas de bon, maintenant je vais plus juste aller sur les médias des autres, mais je vais aussi créer mon propre média?
J'ai envie d'avoir mon espace. C'est cool de pouvoir parler chez les autres, mais j'ai envie de me dire un matin, hey, il y a ça qui vient de sortir. J'ai envie d'en parler avec vous, et j'ai envie que les gens qui me suivent puissent avoir un espace où ils peuvent me retrouver, qui va pas être, enfin, comment dire, qui va pas être régi par les filtres, voilà, imposés par les médias pour lesquels je travaille. Donc un espace qui soit vraiment à moi, où je puisse faire le contenu que j'ai envie de faire. Et pas un contenu qu'on me demande de faire, donc qui me sont un petit peu plus personnels. Donc voilà, c'est honnêtement le Covid et la pandémie hein, qui m'a donné envie de faire ça. C'est le fait qu'on n'ait plus d'événements physiques, qu'on n'ait plus d'occasion de rencontrer les gens. C'est un lien qui me manque énormément. Partager avec la communauté, ça fait partie des choses que je préfère dans mon travail. Donc ouais, voilà, recréer un espace où on peut se retrouver et discuter tranquillement sans filtre.
Trop cool. Il y a quelques petites questions que j'ai envie de te poser encore. Si tu pouvais donner un conseil à Laure à 18 ans, tu lui dirais quoi ?
Ah là là ! Parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, de choses que je regrette, mais je pense que... Je me dirais, t'inquiète pas, ça va aller. T'as pas la réponse à toutes les questions aujourd'hui, mais c'est normal. Et il y a des choses qui te semblent difficiles aujourd'hui, mais t'inquiète pas, tu vas être vachement heureuse.
Trop cool. Si tu pouvais écrire 3 conseils, mantras, ou en tout cas leçons que tu as apprises ces dernières années, que tu pouvais transmettre à quelqu'un à qui tu tiens beaucoup, tu lui dirais quoi ?
Je pense que... Alors, ce qui m'a fait le plus apprendre, c'est le fait d'apprendre à avoir confiance en moi, donc apprendre à se connaître, en fait. On passe beaucoup de temps à essayer d'être ouvert aux autres, mais pas forcément de s'écouter soi-même. Donc je pense que c'est important d'essayer de passer du temps à apprendre à se connaître. Quoi d'autre ? De rester positif, dans le sens où je trouve qu'on se crée sa propre chance d'une certaine manière. Et c'est en restant positif et en... Ça, tout vient avec la confiance, en fait, parce que tu peux pas rester positif si t'as pas confiance en toi. Donc voilà, c'est 3 conseils qui vont par étapes. Apprendre à se connaître. Une fois que tu as travaillé là-dessus, je pense rester positif et essayer de rester curieux, justement, pour se créer sa chance. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et troisième conseil... je pense qu'elle doute pas d'elle. Là, c'est aussi personnel par rapport à l'expérience que j'ai eue dans l'e-sport, mais forcément, on est en tant que femme, en tout cas, remise un peu au niveau du sol, je trouve, sur certaines démarches. Donc voilà, comprendre qu'on a une voix, que notre voix vaut autant que la voix du voisin ou de la voisine, et ne pas avoir peur de faire entendre cette voix.
Trop cool. J'ai 2 dernières questions pour toi, du coup. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui aimerais-tu que ce soit ?
Même une actrice ?
Ah ouais, c'est qui tu veux ?
Ok, Nathalie Portman, je pense. Je suis absolument fascinée par cette femme. Et justement, c'est en écoutant beaucoup de ses interviews et de ses interventions que je pense que j'ai progressé. Donc ouais, l'entendre à ce micro pour parler de son expérience, je pense que...
Nat, voilà, if you're
Nat,
there
si tu veux.
Trop cool. Bon, du coup, la dernière question que j'ai pour toi, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Question qui est liée à beaucoup de choses, je pense. J'ai eu l'impression que j'ai pris le contrôle de ma vie le jour où je me suis rendu compte que j'avais grandi d'une certaine manière. En étant adolescente, je le disais, j'étais un peu perdue. Il y avait toutes ces questions de « qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Est-ce que ça sera assez ? Est-ce que ça sera bien ? Est-ce que ça sera conforme ? Est-ce que X ou Y personnes attendraient de toi ?» Et tu prends le contrôle de ta vie le jour où tu as passé cette étape et où, justement, c'est toujours des questions que tu te poses, mais tu commences à y voir des réponses. Et je sais que c'est hyper flou ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est grandir, vraiment. Prendre le pouvoir, prendre le contrôle de sa vie, c'est grandir.
Super. Et
voilà.
Merci beaucoup, Laure.
Merci.
D'être venue sur InPower. Ça m'a fait super plaisir. Je n'ai pas vu le temps passer, vraiment, très honnêtement. Je crois qu'un jour, je lancerai vraiment des séances de 4 heures et tant pis pour ceux qui arrêtent au bout d'une heure. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, retrouver ton travail, en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
On me retrouve sur Twitter, @LaureBulivet, ou sur Instagram, @Laure_BV, et bientôt sur Twitch et YouTube.
Trop cool. Écoute, si chaîne Twitch et YouTube sont créés d'ici là, je mettrai tout dans les notes du podcast. Et j'espère à très vite.
Merci beaucoup.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Laure. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @laure.bv et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à 2 amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur, et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.